L'affaire Bayen, c'est ainsi qu'on la nomme aujourd'hui, une série d'accusations d'agressions sexuelles au sein du lycée Bayen à Châlons-Champagne. Des témoignages d'élèves, des silences, des questions et une communauté scolaire bouleversée. Entre sidération, colère et quête de vérité, cette affaire met en lumière les failles d'un système censé protéger les plus jeunes. Marie-Pierre Jacquard, ancienne professeure au lycée Bayen et lanceuse d'alerte, témoigne au micro de RMN. Je suis avec Marie-Pierre Jacquard, ancienne professeure et lanceuse d'alerte, dans l'affaire que nous nommons à présent l'affaire Bayen. Marie-Pierre a signalé des violences sexuelles graves sur des élèves et s'est battue pour que ces faits soient pris au sérieux par l'éducation nationale. Marie-Pierre, merci d'être avec nous.
Avec plaisir, bonjour.
Alors Marie-Pierre, première bien sûr question, est-ce que vous pouvez nous resituer les faits, les dates aussi, nous dire simplement ce qui s'est passé au lycée Pierre Bayen?
Alors en fait, mon collègue Pascal V était enseignant dans la section art du cirque avec moi. Lui, il était prof de lettres au départ. Et ensuite, il avait une petite partie d'heure où il faisait la théorie en art du cirque. Donc nous travaillons beaucoup ensemble. On était amis à ce moment-là. Et en fait, en 2021, moi je suis arrivée en 2012 au lycée, donc ça faisait une dizaine d'années que j'étais là. Les réseaux ont créé un mouvement qui s'appelait « Balance ton cirque », sur lequel les faits de violence sexuelle étaient dénoncés. Donc voilà, mon collègue Pascal V est apparu à ce moment-là lors d'un post sur Balance ton cirque en 2021. Et à partir de là, voilà, tout a basculé et ça a été le début de du combat.
D'accord. Les faits sont anciens, mais le nom de Pascal V est sorti très récemment, il y a 4 ans.
Exactement. En fait, il s'avère qu'une ancienne proviseure avait déjà alerté en 2016 concernant ce professeur, alerte qui n'avait déjà pas été prise en compte par le rectorat. Et en fait, moi, quand j'ai alerté, je pensais être seule, puisque personne ne m'a soutenue et personne ne m'a cru non plus. Personne n'a cru les élèves, personne ne leur a demandé ce qui se passait vraiment, personne n'a été les voir, en fait. Donc, en fait, les choses se sont déchaînées un peu contre moi, c'est-à-dire que on a essayé de faire croire que je voulais récupérer des heures ou que j'essayais d'évincer ce prof de la section, etc. Mais à aucun moment, personne ne s'est demandé ce qui arrivait vraiment aux élèves, en fait.
D'accord.
Malgré toutes mes alertes.
Alors justement, vous anticipez un petit peu. Je voulais vous demander comment avait réagi l'éducation nationale quand vous avez signalé ces faits.
Ça a été très très spécial parce que j'ai été ignorée, en fait. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas cru, mais on n'a pas non plus été demandé aux élèves ce qui se passait. Et puis très vite, on s'est mis à s'en prendre un peu à moi. C'est-à-dire qu'on a dit que je poussais les élèves à écrire des choses. On a dit que j'essayais de récupérer des heures. On m'a dit après que j'essayais de remettre le professeur en place. Enfin, tout un tas de scénarios ont été mis en place par mes supérieurs hiérarchiques. Et finalement, personne n'a demandé aux élèves. Et puis il s'avère que ça faisait 25 ans que des élèves se faisaient violer par ce professeur. Et donc voilà, c'est dramatique. On est passé à côté d'un drame, en fait.
Parce que justement, il y a toute une chaîne de hiérarchie quand des faits dans l'académie sont signalés. Du proviseur, ça passe au rectorat. Et à ce moment-là, le recteur qui était en place, qui d'ailleurs a fait parler de lui il y a peu parce qu'il est attaché au cabinet de l'ancien Premier ministre à présent, il faut suivre parce que ça bouge beaucoup. Cette personne du rectorat s'est juste basée sur les écrits de la proviseure de l'époque sans vraiment chercher non plus à faire de son côté tout simplement son travail.
C'est ça, en fait, moi j'ai alerté ma proviseure, mon adjoint, donc tous les deux m'ont traité de menteuse ou de... On me dit que je faisais de la diffamation, que j'essayais d'atteindre à son intégrité, etc. Et mes inspectrices, finalement, se sont reliées à leur cause, donc voilà, il y avait une espèce de quatuor qui finalement s'est mis contre moi pour dire que je disais des bêtises. Et finalement, quand c'est devenu évident que c'était vrai, c'était déjà trop tard parce que l'affaire avait continué... alors que ça faisait déjà 2 ans que j'alertais, en fait. Donc, moi, entre-temps, j'ai essayé d'alerter en direct le rectorat, le recteur, par des mails perso, par un mail perso notamment. Et en fait, pareil, j'ai jamais eu de réponse et j'ai jamais été reçue, en fait. Je pense qu'il a cru ce que leur disaient mes supérieurs hiérarchiques directs, et il ne s'est pas inquiété plus que ça de ce qui se passait.
Et selon vous, pourquoi cette affaire a été ignorée si longtemps?
Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question qu'il faudrait leur poser. Je ne sais pas. Je
D'accord.
ne sais pas.
D'accord. Et au niveau impact personnel, cette situation a changé beaucoup de choses dans votre vie au quotidien.
Ah, ça a changé toute ma vie, en fait. Moi, j'ai été poussée à demander une mutation. Donc, on m'a fait croire que c'est moi qui voulais partir. Mais en fait, moi, j'étais sur le poste de mes rêves, hein, sur un poste à profil art du cirque. Mon mari avait aussi un poste à profil. Donc, on était tous les deux dans des situations professionnelles qui nous convenaient complètement. Et en fait, voilà, on a demandé une mutation parce qu'on n'a pas eu le choix. Finalement, voilà, on est parti de région, on a dû emmener ma fille, ma plus petite fille, qui avait à l'époque, qui rentrait en première, donc ça a été très difficile pour elle. Et puis voilà, revendre toute notre maison, laisser nos amis, ma fille laisser ses amis aussi. Ouais, ça a été très violent.
D'accord. Et tant d'années après, vous vous battez encore. Je sais que vous êtes en relation encore avec d'anciens élèves, notamment avec une mauvaise nouvelle qui est arrivée il y a très peu de temps, et vous continuez à vous battre.
Exactement. Moi, je vais pas lâcher maintenant. Je me dis que ça fait 4 ans que je fais ça pour eux et pour la cause en général, parce que je pense que la cause des violences sexuelles, c'est une affaire malheureusement de femmes, parce qu'on est beaucoup de femmes à lutter contre ça, très peu d'hommes. Et je salue ceux qui le font. Je les invite à nous rejoindre, mais quelque part, c'est à nous les adultes de défendre les enfants. On se doit de le faire. C'est une obligation morale, en fait.
Bien sûr.
Donc voilà, faut pas lâcher.
Bien sûr. Les failles du système de l'époque, vous pensez qu'elles sont toujours les mêmes à l'heure actuelle pour que les faits comme ça restent cachés?
Écoutez, moi j'étais en contact avec des lanceuses d'alerte de Bétarame, de Riaumont, etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'à 20, 25 ans d'écart, on est exactement au même stade. Ça veut dire que voilà, les pédocriminels se protègent, ils font régner le silence et finalement ça fonctionne. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est parler. En fait, il faut dire les mots, il faut mettre les mots sur ce qui se passe. Le silence, en fait, profite aux prédateurs et ça, c'est un fait indéniable. Il faut absolument lutter contre ça.
Et alors, vous répondez en partie, mais que faudrait-il changer pour mieux protéger les élèves, les jeunes mineurs, et puis aussi soutenir peut-être les lanceurs d'alerte?
Bah déjà, les lanceurs d'alerte, ce qu'il faudrait, c'est juste appliquer les lois, parce qu'elles existent, en fait. Il y a des lois qui protègent les lanceurs d'alerte, sauf que dans mon cas précis, par exemple, rien n'a été respecté. Ça veut dire que j'ai été mutée en dehors de tous les règlements, en dehors de j'ai pas été protégée, ma famille non plus. Donc voilà, déjà simplement ça. Et après, le plus important, ce serait quand même de protéger les enfants, c'est-à-dire peut-être de démanteler les réseaux pédocriminels, de pas laisser le silence s'installer, et puis surtout de mettre en place des vraies sanctions, que ce soit contre les pédocriminels, parce que c'est quand même rare qu'ils soient sanctionnés correctement, et puis contre ceux qui protègent aussi, parce que je pense que ça s'est jamais fait. Donc je crois que c'est important malgré tout.
Quel message avez-vous pour ceux qui voient des violences mais qui hésitent à en parler?
Moi, je pense que là, pour le coup, j'ai pas de conseils à donner parce que ce serait comme un jugement, et je crois que j'en ai pas, en fait, parce qu'on réagit vraiment en fonction de son histoire et en fonction de ce qu'on peut faire. Moi, j'ai eu la chance voilà, d'être très bien entourée, ce qui m'a permis de rester forte. Et d'un autre côté, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pas facile. Mais je pense que voilà, il faut parler, quoi qu'on perde, quoi qu'il arrive. Je pense que malgré tout, moi, je me sens complètement alignée. Ça veut dire que depuis le début, je sais que je peux me regarder dans la glace et ça n'a pas de prix.
Alors malheureusement, il n'y aura pas de suite au niveau pénal parce que la personne mise en cause a mis fin à ses jours. Au niveau tribunal, c'est plus possible. Est-ce que...
Alors,
Oui.
si, pardon, je pense qu'il y en aura, et j'espère, parce qu'il y a quand même une plainte pour non-dénonciation de crime qui a été déposée par les députés en charge de l'enquête parlementaire, et j'espère que voilà, c'est quelque chose de finalement assez inédit et qui est, à mon avis, important de souligner, parce que pour une fois, voilà, des gens ont couvert, ou en tout cas n'ont pas fait le nécessaire, et une enquête est en cours. Donc espérons qu'elle ne sera pas classée sans suite, espérons que les victimes auront cette reconnaissance-là du fait que des gens ne les ont pas protégés. Je pense que c'est quand même vraiment important qu'ils aient à un moment ou à un autre une reconnaissance.
On parle de victimes, on parle de ils étaient des ados, des jeunes ados, ils sont maintenant des jeunes adultes. Ça concerne combien de personnes et êtes-vous sûr que le nombre est finalisé?
Pas du tout, pas du tout. En fait, moi, j'ai contact, je pense, avec une petite trentaine de victimes, que ça va du grave au plus grave, c'est-à-dire du harcèlement moral au harcèlement sexuel, photo-pédopornographique, viol, séquestration, torture. Après, il y a des élèves qui ont à peu près une vingtaine d'années maintenant, et il y en a qui ont 45.
D'accord.
Donc, entre les deux, il y en a plein d'autres que qu'on connaît pas, qui peut-être malheureusement n'osent pas encore parler. J'espère justement que les procès en cours, les procédures en cours, leur montreront que peut-être ils peuvent avoir confiance. Je crois qu'il faut garder espoir et se dire que à un moment on va peut-être y arriver quand même.
Alors, l'affaire est largement médiatisée depuis quelque temps. On en parle souvent. La violence sexuelle, c'est des faits qu'on voit passer, comme vous l'avez dit, là, avec l'affaire Méthane aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tout le monde peut faire? Est-ce qu'on peut tous devenir lanceurs d'alerte? Est-ce qu'on peut tous aider?
Moi, j'ai vraiment l'impression, alors je vais parler vraiment que dans l'institution parce que c'est mon corps de métier, mais je crois vraiment que la première des choses à faire, c'est d'arrêter d'éloigner les profs des élèves, c'est d'avoir des effectifs peut-être un peu plus restreints, de pouvoir s'occuper vraiment des élèves, d'être proche d'eux. Ça veut dire d'avoir des profs qui ont encore envie d'être profs, qui sont voilà, qui ont quand même une reconnaissance au moins morale de la part de la collectivité, et puis de se dire que quand on est en confiance avec les élèves osent nous parler en fait, parce que moi on m'a quand même reproché d'être trop proche des élèves. Et je crois que le combat, c'est le mauvais. En fait, être proche des élèves, c'est génial. Ce qu'il faut pas, c'est les violer, tout simplement. Donc, occupons-nous de ceux qui violent et faisons les choses vraiment de façon forte et marquée. Et puis, par contre, laissons les profs qui aiment être avec les élèves et qui s'en occuper, tout simplement, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Un petit message pour la fin, peut-être, à ceux qui vous écouteraient, puisque nous sommes donc à Châlons-en-Champagne. Beaucoup ont entendu parler de cette affaire, beaucoup ont été préoccupés et peut-être concernés aussi directement.
Moi, je dirais que si certains ont été victimes et qu'ils ont l'impression que c'est pas grave et que en fait bien sûr que c'est grave, qu'ils se sentent seuls ou quoi que ce soit, il faut qu'ils sachent que non, on est vachement nombreux, on est nombreux à vouloir les aider. Il y a des victimes qui sont prêtes aussi à aider, à écouter, et qu'en fait à tous on est beaucoup plus fort que tout le monde. Donc il faut absolument pas rester seul, il faut parler et il faut pas hésiter à nous contacter.
Merci beaucoup, Marie-Pierre.
Avec plaisir.
L'affaire considérée jusqu'alors par le rectorat comme une affaire interpersonnelle et une chamaillerie locale devient un dossier brûlant. Après des années d'inaction de l'éducation nationale, le dossier avance-t-il? C'est à présent deux membres de la FCPE que nous recevons dans les locaux de RMN, Sébastien Soulas et Christelle Kraveski, pour parler de l'affaire. Je suis en présence de Christelle Krajewski et de Soulas Sébastien, tous deux membres de la FCPE. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Alors, la FCPE, avant de commencer, peut quelqu'un peut me dire ce que signifie l'acronyme?
Oui, donc c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. C'est une des deux fédérations publiques de parents d'élèves et c'est même la plus grosse au niveau des résultats aux élections en France chaque année.
D'accord, au niveau national,
Oui,
donc.
tout à fait.
C'est une affaire qui concerne donc le lycée Pierre Bayen à Châlons-en-Champagne, où un professeur de français a été accusé d'agression sexuelle sur plusieurs élèves. Les faits remontent à 1998, mais l'affaire a pris une ampleur nationale après le suicide de l'enseignant en décembre 2023, alors qu'il était visé à l'époque, parce que je crois que le nombre a augmenté depuis, par 9 plaintes, dont une pour viol. On a eu dernièrement la lanceuse d'alerte, qui était une ancienne professeure du lycée, qui est Marie-Pierre Jacquard, elle qui avait commencé comme on l'indique, à donner l'alerte, en appelant bien sûr le rectorat de Reims. Auparavant, elle avait suivi la hiérarchie. Et il a fallu encore des années et des années avant que l'affaire s'instruise. Au niveau de la fédération, vous êtes instruit comment du dossier et quand?
Je commence comme
Vas-y.
d'habitude. Alors, nous, en fait, vous savez qu'on a des élections de parents d'élèves en chaque début d'année, donc on présente des listes. Donc, on a une tête de liste qui, en début d'année 2023-2024, est à côté de moi. Elle s'appelle Madame Krajewski-Christelle et qui est informée en début d'année, en septembre 2023, par les parents circassiens qui a une problématique. La problématique, c'est que la prof d'art circassien, en l'occurrence Marie-Pierre Jacquard, est absente. Ça commence comme ça, tout doucement. Donc nous, effectivement, on se renseigne un peu de ce qui se passe. Et puis, ce courrier, donc il y a une réponse qui est faite par la chef d'établissement qui ne convient pas forcément aux parents. Et puis, on apprend en dehors du lycée qu'effectivement, ça commence à circuler comme quoi il y aurait des plaintes qui auraient été déposées à l'encontre de V, ce qui s'avérera vrai, évidemment, après. Bien évidemment, la chef d'établissement de l'époque ne nous en parle pas. Hein. Et puis, l'année commence, et puis V est toujours professeur principal,
Tout
même
à fait.
fois, d'une classe de seconde.
Donc on est toujours en 2023,
Voilà,
toujours
la rentrée de
rentrée
2023.
2023.
Et puis, on apprend à la fin du mois sa suspension.
Oui, et là on est dans le mouvement Balance ton cirque. C'est bien l'antérieur, Balance ton cirque, et c'est là où Marie-Pierre Jacquard a dû vous en parler, puisque elle-même a été alertée à ce moment-là, donc en 2021 en l'occurrence. Et c'est là où elle a commencé à entendre des problèmes de harcèlement. Et elle disait même qu'initialement, c'est les filles qui parlaient de problématiques avec ce professeur, voilà. Et puis, au fil des mois, des années, des décisions ont été prises par rapport à ce professeur qui était non grata, persona non grata au CNAC, mais qui, malgré les débuts d'alerte de l'enseignante, Marie-Pierre Jacquard, au sein même de l'établissement de Bayen, était toujours en poste. Et donc, il continuait à œuvrer auprès des jeunes.
Oui, il était toujours professeur de français auprès des élèves.
Et de SNT, hein. C'était
oui, oui, moi, mon fils l'avait en SNT, donc sciences numériques et technologiques, en seconde.
D'accord. Et au niveau du pénal, là, on en était où au niveau de dénonciations des élèves, des anciens, enfin ou des anciens élèves? Est-ce qu'il y avait déjà eu des plaintes?
À la rentrée, non, ça s'est fait courant septembre, à notre connaissance.
Oui.
Les premiers dépôts de plainte auprès du commissariat de Châlons-en-Champagne. Et c'est là où, en effet, l'affaire a commencé à sembler à nos yeux très sérieuse, puisqu'auparavant, nous n'avions aucune information. Et la première alerte était Marie-Pierre Jacquard est en arrêt prolongé. Cela est problématique par rapport à la section cirque, art du cirque du lycée. Mais là, ça prenait une proportion où des dépôts de plaintes pour viol, agression sexuelle et harcèlement commençaient à être déposés au commissariat de Châlons.
Moult nombre, j'imagine, parce qu'il a quand même sévi pendant plus de 20 ans.
Mais pas tant que ça, c'est un peu la problématique, parce qu'on n'a aucune idée, et je pense que même Marie-Pierre est incapable de donner le nombre de victimes, parce que comme vous le savez, c'est toujours très délicat, et la plainte pour viol a été déposée par un ancien élève, et cela daterait des années 90. Donc il lui a fallu plus de 30 ans pour déposer plainte. Donc on n'a aucune idée du nombre de victimes.
Des potentielles victimes qui ne se sont peut-être pas fait connaître et qui le
Très
feront
certainement.
Peut-être. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a plus du tout d'arriéré quand on parle d'agression sexuelle. Les victimes peuvent se faire connaître n'importe quand.
Oui, de ce que je connais de la loi. Si c'est leur souhait, je pense que Marie-Pierre est très certainement en contact avec des victimes potentielles, mais qui ne souhaitent pas déposer plainte. Là, c'est vraiment la plainte pour viol qui a commencé à faire prendre cela au sérieux.
Ce qui est malheureux, c'est que cette affaire a été étouffée de nombreuses années. Elle ressort à présent uniquement parce qu'on a entendu que le recteur de l'époque a été promu auprès du ministère.
Très récemment, oui.
Donc, ce qui fait un petit peu ressortir cette affaire. Heureusement, peut-être, hein, puisque ça permet justement d'en reparler. Et dans toute cette chaîne de commandement, en passant par le la proviseur de l'époque, le cabinet du rectorat, tout le monde a été, comment on dit, tiercé gagnant, puisque la proviseure a été mutée, le recteur a été muté, la lanceuse d'alerte, elle, a été écartée.
Alors, on ne peut pas dire qu'on en parle plus, que nous, on est sur le coup quand même maintenant depuis, donc depuis l'année 2023. Et on a quand même deux procédures qui sont encore en cours. Donc la première, c'est celle qu'on est en train de mener au tribunal administratif et dont le dépôt est imminent, puisque M. le recteur a reçu au mois de septembre l'information comme quoi on allait attaquer l'État et le rectorat sur le sujet de qu'ils n'ont pas fait leur job, on va dire, hein, pour résumer de manière très simple, et qui a aussi d'un autre côté, les députés, quand ils sont venus au mois d'avril, ils ont déposé une plainte pour non-dénonciation au nom de l'article 40, donc il y aura peut-être aussi une enquête qui va être menée de ce côté-là. Donc effectivement, dans le Chalonnais, on n'entend pas beaucoup parler de l'affaire, mais il faut savoir que nous, on est là et on sera là jusqu'au bout et on lâchera pas.
Alors le bout, justement, quelle est cette finalité que vous demandez ?
Alors là, au tribunal administratif, en fait, on demande la reconnaissance du fait qu'ils aient fait des fautes, hein, qu'ils n'aient pas réagi par rapport aux agissements donc du professeur. Donc on va les attaquer sur leurs carences et défaillances dans l'organisation du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. Donc là, effectivement, donc à la date du 18 septembre, M. le recteur a reçu le courrier recommandé. Notre avocat a donc 2 mois après pour formaliser officiellement auprès du tribunal administratif. Et après, on partira pour une procédure qui va être peut-être un peu longue, 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Et puis à la fin, le tribunal il jugera si on a raison ou pas.
Et le statut de victime, bien sûr.
Et le plus important quand même pour nous, et c'est quelque chose dont on entend très peu parler, c'est la reconnaissance des victimes, puisque on l'a dit précédemment, il y en a beaucoup certainement. Et je relisais l'article qui a été fait par une de vos collègues de France 3 là, récemment sur l'enquête administrative, la fameuse enquête administrative, et qui disait quand même qu'à un moment donné, au niveau de la chaîne de commandement, il n'y a pas eu de grandes sanctions qui ont été données, d'une part, et puis après qu'il y allait avoir des auditions qui allaient avoir lieu dans le cadre de la seconde affaire. Nous, on pourra peut-être se porter partie civile, enfin, il faudra voir, mais c'est deux affaires assez distinctes, puisque le fait que M. V se soit suicidé, la partie judiciaire liée à son statut est arrêtée, c'est la loi française, et donc notre avocat, qu'on avait sollicité, a pris le temps d'étudier le dossier assez profondément, il a récupéré la première enquête judiciaire pour savoir qu'est-ce qui était possible pour nous, et en tant que fédé notamment, et nous, la seule option, c'est d'aller au TA, voilà,
d'accord,
pour le moment.
Moi, je voudrais relire un passage qui est issu de l'enquête interne. C'est le témoignage donc de Olivier Brandoui, qui était donc recteur à l'époque, et qui écrit dans son témoignage que cela ressemble à une chamaillerie locale qui s'envenime. L'enseignante, donc, qui parle de Marie-Pierre Jacquard, hein, la lanceuse d'alerte, essaye d'attirer l'attention à travers sa demande. Je suis confortée dans cet avis par la proviseure et les deux inspectrices. Deux inspectrices, donc, on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs, mais qui ont été mises au courant aussi et qui sont dans la même boucle, on va dire. Quand on écoute ça, quand on lit ça, on a l'impression qu'il est dans un autre monde.
Bah, c'est surtout que ça prouve que toute la chaîne était défaillante, en fait. De la chef d'établissement au recteur lui-même, en passant par les inspectrices, le service RH du rectorat. Et en effet, tout cela a été reconnu dans les conclusions de l'enquête administrative qui avait été décidée par le nouveau recteur en place. Car ce qu'il faut savoir, c'est que M. Brandoui a quitté son poste de recteur de l'Académie de Reims et qu'à la rentrée, donc en 2023, et qu'à la rentrée de septembre 2023, il y avait un nouveau recteur. Et peut-être que si M. Brandoui avait été encore en poste, peut-être que la situation n'aurait pas évolué telle qu'elle a évolué avec le nouveau recteur. Donc, ça, on ne le saura jamais, c'est des suppositions. Mais en effet, toute la chaîne était défaillante. Et le fait que la lanceuse d'alerte, et puis on peut parler de l'infirmier également, même en tant que lanceur d'alerte, car il a lui-même souhaité témoigner récemment.
Et je crois qu'il était tout jeune, c'était dès son premier poste.
Oui, oui, tout à fait. Il avait exercé ailleurs auparavant et c'était son premier poste au sein de l'Éducation nationale, tout à fait. Et je pense que les deux lanceurs d'alerte ont essayé à leur niveau de faire ce qu'ils devaient faire au vu des faits très graves dont ils avaient connaissance, mais que toute la chaîne a été défaillante. Et c'est ce qu'on espère qui ressortira aussi via l'enquête, enfin le tribunal administratif.
Vous êtes tous les deux parents, j'imagine. Mm-hmm. Vous êtes tous les deux donc membres FCPE et en charge de cette affaire. Comment on peut vivre en étant imprégné peut-être de détails que vous ne nous donnez pas, bien sûr, dans la presse? Mais vous avez eu vent des témoignages, vous avez eu vent de tout ce qui s'est passé et ça ne doit pas être évident.
Alors on a même rencontré de nombreuses victimes. C'est difficile. Moi je sais que Christelle, on a participé à un documentaire qui va passer dans quelques mois où on était réunis avec deux victimes qui ont été violées. Moi, j'avoue que le soir, quand je rentrais à la maison, j'étais pas bien. Hein.
On n'est pas formé non plus pour ça. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas inspecteur de police, vous n'êtes pas.
Mais ce qui caractérise pour moi cette affaire, on va dire, parce que je l'appelle aussi l'affaire Bayen, comme vous. Donc pour nous, comme on rentre dedans seulement en septembre 23, et au fur et à mesure des mois qui passent, on en apprend de plus en plus. Et là encore récemment, quoi, avec la parution de quelques pages de l'enquête administrative, et c'est toujours plus horrible ce qu'on entend, c'est toujours plus affreux. Et nous, ce qui nous choque, c'est que les personnes qui n'ont rien fait sont encore en poste et ont même été promues. Et ça, là, j'avoue que c'est pour les victimes, ça doit être très très choquant. très choquant et difficile à vivre, puisque c'est même spécifié hein, dans l'article qui le dit, là, que l'enquête administrative, elle ne parle jamais des victimes.
Oui.
Jamais. C'est vraiment caractéristique de cette affaire. C'est qu'on ne parle quasiment jamais des victimes et des violences qu'elles ont subies. C'est pas...
Alors, la parole de ces jeunes, hein, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, était complètement mise de côté. Est-ce qu'on peut dire que l'affaire Bayen servirait pour la suite, pour d'éventuels mêmes dossiers? Est-ce que les jeunes pourront être mieux entendus, peut-être pris au sérieux surtout?
C'est aussi un des points sur lesquels on travaille à notre niveau local et on espère qu'au niveau national, par le rapport de la commission d'enquête qui a eu lieu au sein du Parlement, les choses évoluent. On n'a aucune idée de comment cela va pouvoir évoluer positivement, mais nous, on essaye d'œuvrer au niveau local. Dès septembre 23, on était en contact avec le recteur sur ce sujet et on a toujours demandé à ce que des choses soient mises en place au sein des établissements. Bah, y a en l'occurrence, mais on essayait de défendre aussi les autres établissements parce que c'est tous les enfants qui doivent être entendus à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont mis en place à Bayen depuis la rentrée de septembre 24 une Safe Palace. Donc c'est un lieu où les jeunes peuvent parler, mais ils ne peuvent... Alors, ça a le mérite d'exister, mais on a encore reçu un mail récemment à ce sujet en tant que parent d'élèves de Bayen. Ce sont des professeurs, c'est l'infirmière, ce sont des gens en interne qui écoutent la parole des jeunes. Je sais que le rapport de la commission d'enquête évoque plusieurs pistes. On peut qu'espérer que l'avenir soit meilleur au niveau de l'écoute des jeunes, mais c'est vrai que... On ne peut voir que par des actes.
Comment ça se fait d'ailleurs? Comment vous, vous interpréteriez le fait que quand une personnalité publique soit accusée d'actes ou de paroles, l'affaire soit vraiment traitée si rapidement? Je ne donne pas de nom, mais on a tous des noms en tête. Et là, il s'agit de... Est-ce que c'est le fait qu'il s'agisse de jeunes ou est-ce que c'est le fait que c'est... au niveau scolaire, pas de vagues, pas de rebondissements, c'est la grande muette.
Ouais, là, on rentre dans c'est complexe. Nous, on connaît que le lycée Bayen sur cette affaire. On sait pas, et d'ailleurs, sur l'enquête qui a été menée par les parlementaires, ils n'ont fait en sortir que celle-ci, et certainement d'autres. moi, je pense qu'il y a un problème de hiérarchie déjà, donc le fameux pas de vague. Et puis, je pense aussi qu'il y a peut-être qu'ils ne savent pas comment ils doivent réagir. Ils ne sont peut-être pas formés. Mmh. Et c'est un des trucs qu'on met en avant. Hein. Nous,
ce qui rejoint un petit peu ce que tu disais, ce sont des professeurs et des infirmiers scolaires. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des psychologues, alors, à ce moment-là, qui rentrent dans la boucle ?
Très certainement. Très certainement. Mmh.
Dans le rapport, il y a plein de recommandations. Il y en a 50, je crois, dans le rapport des députés. Il y en a 0 qui ont été mis en œuvre aujourd'hui, puisqu'il y a une instabilité telle que... On a quand même une ministre de l'Éducation nationale qui dit que c'est pas son domaine de prédilection. Mmh. Ça dit quand même quelque chose sur comment on positionne l'éducation dans notre pays. Hein. Enfin, moi, personnellement, ça me choque que quelqu'un qui soit nommé ministre d'un des plus gros ministères dise que c'est pas son domaine de prédilection. Donc à partir de là, on peut pas être étonné que ça n'avance pas vite. Et on le voit bien sur ce genre d'affaires où ça a duré pendant la première victime, c'est 97-98, donc plus de 25 ans. Il a fallu des gens courageux, notamment une personne courageuse, pour faire avancer le dossier, et grâce à une association qui est spécialisée justement hein, dans le domaine, pour qu'à partir du début de l'année 2023, il y ait des choses qui bougent. Donc c'est quand même 25 ans de, je sais pas, de laxisme, je sais pas comment on peut le caractériser d'ailleurs.
D'administration, tout simplement aussi, hein, de lente administration, puisque c'est des dossiers, et peu
d'actes. Pas de la lenteur, c'est vraiment un sujet de société. Comment on s'empare de ce sujet qui est la violence faite aux jeunes, et notamment au sein des écoles, des établissements scolaires. Ce qu'on constate aussi, nous, par notre connaissance de l'affaire, c'est qu'au niveau du pénal, du procureur, il n'y a pas eu d'action puisque la procureure de l'époque était au courant des problèmes par le biais
des plaintes,
des informations, mais même avant. C'est-à-dire que l'association dont parle Sébastien, c'est l'association Colosse au pied d'argile qui œuvre donc pour la lutte contre ces violences faites aux enfants. C'était initialement dans le domaine du sport puisque la personne qui a fondé cette association était elle-même victime. Et c'est ce qu'on voit aussi, c'est que souvent des personnes qui œuvrent pour cela, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont été victimes et pas entendues. Mais quand au niveau de l'éducation nationale, il y a qui ne s'empare pas de cette problématique qui touche de nombreux établissements. Bayen, on en a parlé parce qu'il y a eu, certainement, M. Bérou qui a été Premier ministre et une commission d'enquête qui a été mise en place. Là, très récemment, avec la nomination à Matignon de l'ancien recteur qui était au courant et qui n'a pas agi. Mais combien d'établissements sont concernés, combien de victimes ? Je crois que la Civise a beaucoup publié à ce sujet, sur ces violences faites aux enfants. Et c'est très inquiétant si personne ne s'en empare.
Quelque chose qui m'a un petit peu tilté tout à l'heure, quand vous parliez de la suite, maintenant, les procédures, on est dans le tribunal administratif, on n'est plus dans le pénal.
Alors pour nous, oui, pour l'instant, avec la plainte, effectivement, donc à la fin, ils vont dire s'ils sont coupables ou pas, puis ce sera un dédommagement. Hein,
donc il n'y aura plus jamais d'instruction dans le pénal parce que la personne incriminée est décédée.
Par contre, si de l'autre côté, alors moi je ne suis pas juriste, mais la plainte pour non-dénonciation, a priori, selon ce que j'ai pu lire, le procureur décidera au mois de décembre si ça va plus loin ou pas. Et là, ça va plus loin, effectivement, ça peut aller jusqu'à un procès. Mais on n'en est pas là. Nous, on reste pour l'instant sur notre sujet, c'est le
théâtre. Quand même important pour les victimes d'avoir ce statut peut-être transformé en pénal et non pas en tribunal administratif.
Oui, mais si c'est reconnu au théâtre déjà qu'ils sont bien des victimes et que l'État, en l'occurrence le rectorat, a fauté, ce sera déjà, je pense, pour eux quelque chose de positif. Il faut déjà voir ça, parce qu'aujourd'hui, on a que cette porte d'entrée. La deuxième, elle n'est pas sûre qu'elle va aboutir. Si le procureur dit non, que ça ne va pas plus loin, il n'y aura pas grand-chose.
Voilà. D'accord.
Je sais qu'une des victimes disait, mais ne serait-ce que des excuses de la part de ceux qui ont mal fait leur travail. Ce serait déjà super d'entendre ça.
Reconnaître qu'il y a eu des failles.
Utiliser des excuses, en fait.
D'accord.
Parce que le mal est fait pour eux, et en effet, avec le suicide de V, le pénal, Monsieur V ne sera jamais reconnu coupable de quoi que ce soit. Mais
reconnaître qu'il y a eu des manquements dans la chaîne permettra peut-être que d'autres potentielles victimes soient
épargnées. Alors ça, ça a été en fait partiellement, hein, puisque comme je dis, nous on demande la reconnaissance des victimes, que l'administration reconnaisse ses fautes, et là je dis toujours que ça a été fait partiellement, et puis que ça ne se reproduise plus, et là ça engendre plein de choses dont on pourrait parler. Mais quand on a rencontré M. le recteur au mois de septembre 2024, il nous a fait une restitution orale de ce fameux rapport administratif, et il a quand même reconnu qu'il y avait eu des défaillances ou des manquements. Le terme qu'ils emploient dans l'éducation, c'est le manquement, c'est le terme manquement. Et à partir de là, il nous avait dit qu'il y aurait éventuellement des sanctions. Nous, on s'était mis très en recul en disant, nous, en gros, ça ne nous concerne pas. Mais on pensait qu'il allait en avoir. Et quand on a vu, quelques jours plus tard, que l'approviseur de l'époque était nommé dans un lycée, Évian, que son adjoint était nommé principal d'un collège du Centre-Marne, on s'est posé quand même beaucoup de questions.
Et que le recteur, donc, était promu.
Oui, que le recteur. Mais nous, enfin, nous, on était plus proche du local, parce que ces personnes-là, on les avait en face de nous. Monsieur le recteur, moi, en tant que président, je l'ai dû le rencontrer une fois en 2, 3 ou 4 ans qu'il était là. Donc, alors que la chef d'établissement et son adjoint, on les a croisés assez régulièrement.
D'accord. C'est quand la suite, alors ?
Ah ben la suite, donc, c'est le dépôt, on espère, officiel de l'avocat au niveau du tribunal administratif. Donc, on ne va pas être tout seul. Hein. Il y aura aussi Marie et sa famille.
Et
il y aura des victimes. Mmh. Il y aura d'autres parents circassiens qui se sont regroupés. Et puis, donc, on part pour une période longue.
D'accord.
Et l'objectif, c'est qu'il y ait une reconnaissance des fautes qu'ils aient pu faire.
D'accord.
Et puis après, au niveau local, nous, on a, comme vous l'avez dit, on a des enfants sur Bayen encore, tous les deux. Cette année, c'est moi qui mène la liste avec Christelle et dessus aussi. L'année prochaine, on va peut-être inverser. Enfin, on travaille tous les deux quand même sur le dossier fortement depuis deux ans un peu passés. Et nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que la parole des jeunes soit entendue. C'est-à-dire, quand un jeune y parle, on le croit.
Bien sûr. Que ce soit Bayen ou n'importe où.
Oui, n'importe où.
Exactement.
Et donc là, on a quand même une chef d'établissement et une adjointe qui sont arrivées l'année dernière, qui sont quand même déjà à la base dans un autre état d'esprit que l'équipe précédente, où il y avait peu de dialogue, peu de sourire. Vous savez, c'est quelque chose qui...
C'est la porte d'entrée, de toute façon, d'un lycée.
Et donc, la question, c'est se demander si ceux qui étaient à la direction avant, s'ils aimaient ce qu'ils faisaient, leur métier, s'ils aimaient les enfants, quoi. Enfin, c'est, à la limite, c'est... Je me suis posé cette question qui paraît basique, mais voilà, c'est... Et là, on s'assure que donc il y a une safe place, il y a une nouvelle direction, que c'est reparti. On n'oublie pas, mais il faut avancer.
Et par le biais de notre représentativité au sein des différents conseils et commissions dans tous les établissements où nous sommes, nous veillerons à ce que la parole de l'enfant, si besoin, soit écoutée par différents biais. À Bayen, c'est une safe place, mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'écouter l'enfant et de mettre en œuvre différentes actions pour... en tenir compte.
Je sais qu'au collège Notre-Dame, qui est un collège privé, ils ont mis en place des boîtes à courrier. Les enfants peuvent écrire quand quelque chose ne va pas. Et au moins, c'est un peu confidentiel aussi.
Tout à fait. Toute action dans ce sens sont bonnes à prendre.
Écoutez, on va suivre l'affaire. On va vous dire merci en tout cas.
Merci à vous deux. Je veux juste un petit mot avant de finir. Un des points qui est hyper important quand même dans ce genre d'affaires, c'est qu'il faut avoir des parents sur le terrain. Et c'est ce qui nous manque.
On peut lancer un appel des parents.
Voilà, on va pas se cacher. Les fédérations de parents d'élèves aujourd'hui, on a du mal à recruter, mais comme beaucoup d'associations d'ailleurs. Et nous, on pense que c'est en ayant des parents sur le terrain qu'on peut faire remonter ce type d'informations ou ces malaises ou des choses qui ne vont pas. Si on n'en a pas, effectivement, c'est la porte ouverte. Je dirais que l'administration, au sens large, elle puisse un peu faire ce qu'elle veut. Donc nous, effectivement, notre truc, c'est de lancer un appel, à dire que c'est des parents que ces sujets intéressent, mais pas que.
Alors justement, des parents qui seraient intéressés, comment ils font pour vous contacter ?
Alors, on a Le plus simple, c'est le mail. Hein.
On peut le donner.
On peut le donner, puis on va vous le donner, parce que c'est celui où il est relevé tous les jours. Et alors, le téléphone aussi, mais le téléphone, on n'a pas de salarié, donc il y a du transfert, ça marche aussi. Mais, donc c'est fcpe51000@gmail.com.
D'accord, tout simplement.
On a un site
et puis
internet.
De toute façon, on vous retrouve voilà, sur Internet.
Et donc, si on a des parents qui ont envie de s'investir sur ces sujets, mais pas que, et qui, nous, on les accueillera, bien évidemment, on les formera s'il faut, mais c'est un vrai sujet.
Tout à fait. Merci à tous
Merci
les deux.
Merci Sophie.
Cette émission est à présent terminée. Nous vous invitons à suivre les réseaux sociaux de la FCPE Chalon en Champagne. Merci à tous.